Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Lieg auf meinem Bett, kann kaum noch atmen. Mach mir Sorgen um die weißen Laken.
Bonjour, des mères pro-migrants menacées de mort en Allemagne où un élu pro-migrant, lui aussi, a été assassiné début juin. Le principal suspect dans cette affaire est un sympathisant néo-nazi et désormais c'est tout le pays qui redoute une montée du terrorisme d'extrême droite. Dans le village de Yamel, dans le nord de l'Allemagne, les néo-nazis font la loi depuis plusieurs années. Mais tous les Allemands connaissent Yamel et sa quarantaine d'habitants parce qu'un couple d'artistes fait de la résistance. Déborah Berlioz.
Horst et Birgit Lohmeyer pensaient réaliser leur rêve en rachetant une ancienne maison forestière à Yamel en 2004. Il est musicien, elle écrit des romans. Ils veulent tous les deux quitter Hambourg et s'installer à la campagne. À l'époque, un seul membre du parti d'extrême droite néo-nazi NPD vit dans le coin, Sven Krüger. Rien d'insurmontable à première vue, mais le couple va vite déchanter. Sven Krüger terrorise le voisinage et ses amis rachètent peu à peu le village entier. Ceux qui refusent de déménager sont chassés à coups d'intimidation et de fenêtres cassées. Peu à peu, les crânes rasés et les drapeaux du Troisième Reich envahissent le paysage bucolique. 15 ans plus tard, Horst et Birgit sont les derniers résistants. Et les sexagénaires ne protestent pas en silence, bien au contraire. Depuis 2007, ils organisent chaque année un festival de rock, explicitement contre l'extrême droite et pour la démocratie. L'événement a attiré 1500 visiteurs l'an dernier, et des groupes comme les Totenhosen ou Die Ärzte y ont déjà joué. Si la police protège chaque année le festival, les autorités locales n'en facilitent pas l'organisation. L'année dernière, la commune a loué un des espaces utilisés pour l'événement à un couple d'extrême droite. Birgit a donc décidé de se présenter aux élections communales cette année. Mais évidemment, c'est le néo-nazi Sven Krüger qui a remporté les voix. D'ailleurs, les Lohmeyer ont été plusieurs fois menacés. Leur grange a même brûlé en 2015. Mais il en faut plus pour les décourager. Leur festival se tiendra encore cette année, les 23 et 24 août, et les tickets ont déjà tous été vendus.
En Estonie, les habitants apprennent à vivre depuis quelques semaines maintenant avec l'extrême droite aux affaires. Début mars, Ekre, le parti conservateur nationaliste, a quasiment triplé son nombre de sièges au Parlement et a fait dans la foulée son entrée au gouvernement. À Tallinn, certains s'inquiètent et se mobilisent. Un reportage de notre correspondante dans les Pays-Baltes, Marielle Vituro.
Le jeudi, c'est le jour du Conseil des ministres à la maison Stenbock, le siège du gouvernement sur les hauteurs de Tallinn. Le jeudi, c'est aussi jour de protestation. Les opposants à Ekre brandissent leurs affiches devant des touristes curieux et des ministres qui les ignorent. Sur l'affiche de Tigou, jeune diplômé des Beaux-Arts, on peut lire
« La violence ne réduit pas la pauvreté. C'est un message à l'attention du parti populiste de droite, Ekre. Ils ont une rhétorique très violente. Ils espèrent ainsi attirer les gens qui ont un faible revenu. »
Vilja Kissler est une journaliste estonienne reconnue. Elle donne rendez-vous dans un café de Tallinn, elle n'a plus de bureau. Mi-avril, elle a choisi de quitter le Postimees, l'un des grands quotidiens nationaux. Son éditorial dénonçait la violence cachée de Ekre. Il a déplu, mais pas question pour elle de transiger.
Le fait que ce parti soit au gouvernement est une grave erreur, en particulier en raison de leur conception des libertés. Ekre fait du Donald Trump à la mode estonienne. Ils ont déclaré que les médecins qui pratiquaient des avortements étaient des criminels. Ils mènent une campagne contre le procureur général. Mais s'ils s'en prennent aux institutions, ça pourrait amener des changements considérables dans le pays.
Pour ce parti politique, les artistes, les personnes LGBT ne sont que du rosa illa, du slime rose, cette pâte gluante que les écoliers malaxent dans les cours de récréation. Lina Leloff, une jeune bijoutière, les a pris au mot. Dans son atelier, elle étale sa production, elle en fabrique dans toutes les formes et dans toutes les nuances, du vieux rose au fuchsia, et les gens les accrochent à leur sac ou à leur veste en signe de protestation.
S'afficher avec du slime rose, c'est les prendre au pied de la lettre. Il y a 5 ans, je ne connaissais pas les opinions politique de ma coiffeuse. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça, de politique. Et les gens qui ont des opinions différentes ne communiquent plus ensemble. Ils se fâchent et cela se produit parfois même entre amis.
Christina, une jeune lycéenne, s'inquiète des premières décisions prises par le gouvernement.
Le gouvernement vient de réduire les taxes sur l'alcool, mais ils n'ont pas donné l'argent qu'ils avaient promis pour la science et la recherche. Nous devons investir dans les nouvelles technologies pour combattre le réchauffement climatique. C'est une décision totalement irresponsable, en particulier vis-à-vis de la jeune génération.
Les journalistes, en particulier, sont la cible de ce parti nationaliste et conservateur. Un collègue de l'éditorialiste Vilja Kisler a dû aussi quitter son poste à la radio publique estonienne. Les attaques sont incessantes.
Ils n'ont pas tellement d'influence sur les journaux qui sont dans les mains du privé, mais ils peuvent s'attaquer aux médias publics financés par l'argent du contribuable. Et dès que tu publies un papier critique à leur égard, il faut s'attendre à une avalanche d'insultes. Quand je publiais mes papiers dans Postimes, j'ai reçu de tels messages que je me suis adressée à la police. Certains partisans d'Ecreux me disaient que si je n'arrêtais pas, je serais violée.
Silver Tambour travaille à Telliskivi, le quartier hipster de Tallinn, où d'anciennes industries ont été reconverties en espaces de travail, en restaurants à la mode et en boutiques de design. Il a fondé Koigi Esti, notre Estonie, un mouvement qui veut protester contre Ekreux sans manifester via les réseaux sociaux et en parlant aux gens dans la rue. La lutte est difficile car Ekreux sait mieux que tout parler la langue des symboles en jouant avec les différentes références nationales.
Notre fleur nationale, c'est le bleuet. Avant Ekreux, aucun autre parti politique ne l'utilisait de manière exclusive. Le parti a commencé aussi à organiser une marche au flambeau pour le jour de l'indépendance, le 24 février. Cette année, plus de 5000 personnes se sont réunies. Et ce n'était pas uniquement des partisans d'extrême droite. Il y avait aussi des familles et des jeunes. Le même soir, la télévision retransmettait la réception officielle à la présidence. Il y avait un millier d'invités et le gratin de l'Estonie. Ekreux a eu les mains libres pour organiser une alternative.
Pour Jonas, qui proteste devant la maison Stenbock, le mal est déjà fait.
La réputation d'excellent élève que nous avions a disparu aujourd'hui et tous les grands journaux, le New York Times et d'autres, s'en font l'écho.
Combien de temps la coalition gouvernementale tiendra-t-elle ? Les partis de la coalition se fissurent déjà sous le poids des différentes ambitions personnelles. Les fractions parlementaires joueront-elles un rôle de contre-pouvoir ? La présidente est arrivée le jour de l'investiture du gouvernement avec l'inscription « La parole est libre » sur son sweatshirt. Elle ne peut pas faire plus. Le virage à droite de l'Estonie sera en tout cas l'un des thèmes majeurs du festival de journalisme, le festival Arvamus, qui se tient début août dans le sud du pays.
Dans le nord de l'Italie, à Bologne, on prône le vivre ensemble, l'ouverture à toutes les cultures, avec la toute première bibliothèque en arabe d'Italie, Cécile Debarge.
C'est une petite armoire de bois clair lourde de symboles. À l'intérieur, 3 étagères et 100 livres en langue arabe, certains bilingues, d'autres en langue originale uniquement. Ce projet s'appelle la Petite Bibliothèque Arabe et c'est une première en Italie. Inaugurée il y a quelques semaines à la maison de Kaula, une bibliothèque de Bologne, en Émilie-Romagne, on y trouve des bandes dessinées, des romans, mais aussi des écrits des philosophes Avicenne ou Averroès. À l'origine de ce projet, le don de la Fondation Kalima de l'Émirat de Sharjah, souvent considérée comme la capitale culturelle des Émirats Arabes Unis et qui a déjà financé plus de 200 micro-bibliothèques à travers le monde depuis 2016. Le choix de Bologne ne doit rien au hasard, selon la présidente de la Fondation qui se félicite que dans cette ville, connue pour être un grand centre universitaire, les gens comprennent l'importance de lire des livres dans d'autres langues que la leur. Ces livres, c'est une prise de position, c'est un thermomètre de la paix, du vivre ensemble et de l'harmonie culturelle et sociale, a réagi de son côté la promotrice du projet en Italie, Marcella Terusi. Le symbole est d'autant plus fort que cette bibliothèque, située dans le quartier de Navilé, dans le nord de la ville, porte le nom d'une fillette de 12 ans, d'origine marocaine, Kaula. En 2008, aidée de sa maîtresse, elle avait écrit une lettre à la mairie de son quartier pour leur demander d'ouvrir un endroit où elle puisse venir faire ses devoirs et lire tranquillement. Cet endroit porte aujourd'hui son prénom.
Dum la dum la da, da dum la da, da dum la dum la da, ma de Armenia. La Roumanie agricole se met aux nouvelles technologies. Il reste encore beaucoup de petites exploitations dans le pays qui cohabitent avec des fermes qui s'étendent, elles, sur des milliers d'hectares dans la plaine du Danube, très fertile. Et ces fermes gigantesques appartiennent à des Roumains, mais aussi à des étrangers. Et pour exploiter de telles surfaces, il faut absolument se convertir aux nouvelles technologies, avec parfois quelques adaptations. Benjamin Ribou est allé à la rencontre d'un agriculteur français installé dans le pays depuis plus de 25 ans.
L'exploitation d'Arnaud Perrin est située à l'est de Bucarest, en direction de la mer Noire, dans l'immense plaine du Danube. 4000 hectares de terre qu'il possède, ou qu'il loue surtout, à de petits propriétaires. Il y cultive de l'orge, du colza, du blé l'automne, ainsi que du tournesol, du maïs et du soja au printemps. En un quart de siècle, il a assisté à toutes les transformations de l'agriculture roumaine, la fin des coopératives d'État de la période communiste, l'arrivée de gros acteurs, étrangers ou roumains, et toujours présente, la petite paysannerie. Et enfin, l'émergence de la technologie, de plus en plus incontournable dans le pays. Chez lui aussi, on s'est mis à la page.
On est au cœur de l'exploitation, donc c'est là où nous stockons nos céréales, et on a des grands élévateurs qui supportent l'antenne RTK. C'est un élément essentiel pour avoir une précision au centimètre pour mes tracteurs. En plus de tous les satellites qu'il y a, il faut aussi un point fixe qui est ici.
Le mirage de la technologie, toute puissante, les Roumains en sont comme d'autres les victimes. Certains s'adaptent et s'en sortent mieux que d'autres, comme Arnaud Perrin qui nous explique sa recette sur son exploitation.
Là, on mélange un peu de modernité et des choses beaucoup plus classiques. Vous remarquerez que les tracteurs sont des tracteurs neufs, mais qui ont une technologie d'il y a 20 ans à peu près. C'est des machines levasseuses de 2007 et 2008 qui sont des modèles qu'on sait réparer nous-mêmes. Et pour les tracteurs, c'est pareil. Donc acheter du matériel très complexe, c'est aussi beaucoup de complications pour nous. Donc aujourd'hui, on préfère utiliser du matériel simple et efficace. Le top de la technologie, on le trouve aussi en Roumanie. C'est un peu du rêve pour tout le monde. C'est-à-dire qu'avant de savoir choisir une pression adéquate pour le pneu, on va tout de suite sauter vers un système de satellitaire très complexe. Tout a été très très vite. Et donc c'est pas évident de ne pas sauter aussi les étapes. C'est très tentant de le faire.
Investir et se moderniser, facile à faire, mais pour Arnaud Perrin, cela donne surtout lieu à des couacs dans un pays comme la Roumanie.
Il y a 8 ans, on a fait un abonnement pour avoir les indices de végétation. Il s'agit de satellites qui vont regarder l'état des cultures, qui vont pouvoir nous dire s'il y a un manque d'azote ou pas. Donc c'est un truc très avant-gardiste et qui est utilisé dans beaucoup de pays, notamment les États-Unis, mais qui est en Roumanie n'est pas utilisable parce que on manque de professionnels pour interpréter toutes ces données. Les GPS, les RTK, les produits phytosanitaires qu'on utilise, ça demande des compétences. On a besoin de coopératives, de CETA, d'instituts de recherche, de personnes formées, de très bons agronomes qui puissent nous aider dans ce sens-là. Mais tout seul, c'est pas possible. On manque énormément de support. On n'a pas d'école professionnelle. Et nous-mêmes, on n'a pas reçu la formation adéquate pour ce genre de technologie, de haute technologie.
Conscient de certaines limites propres au pays, Arnaud Perrin avance à tâtons avec la technologie. Il utilise d'ailleurs en complément des méthodes agroécologiques et fait en sorte d'attirer sur ses terres des rapaces et des insectes pollinisateurs et auxiliaires pour ses cultures. Mais d'autres agriculteurs, eux, choisissent volontiers de sauter les étapes. Sébastien Record, expert en agriculture de décision et en innovation agronomique, dresse le bilan.
La Roumanie a un petit décalage, un petit peu moins d'une dizaine d'années en fait, décalage. Mais il faut bien se rendre compte que le déploiement de la technologie va assez vite. Le parc matériel est relativement vieillissant, donc une fois qu'ils ont essayé de moderniser, ils modernisent de suite sur la dernière technologie disponible, sur la dernière nouveauté en fait. Et le moteur pour mettre en œuvre de l'innovation, c'est vraiment l'approche économique. Donc on a parlé de GPS, on a parlé par exemple de sondes pour mesurer la consommation de gasoil. Aujourd'hui, on voit des technologies qui existent par rapport à l'image satellite, par rapport à l'application variable de différents intrants. Et donc ça peut être de la densité de semis, ça peut être la dose de pesticides, etc. ou d'engrais. Ça, ils y viennent. On a déjà touché les 5% qui sont les plus en avance. Et le ventre mou, on le touchera, je pense, dans 2 ans, 3 ans.
Contraint par un climat difficile et des spécificités d'ordre historique et culturel, les agriculteurs roumains digèrent la technologie à leur rythme, certains plus vite, d'autres moins. Pour l'instant, la robotique, elle, est encore très peu présente dans le paysage.
Un reportage réalisé avec le soutien de la Direction Agriculture et Développement Rural de la Commission européenne.
Music.
C'est vendredi, la chronique musique de Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
Aujourd'hui, on écoute un groupe norvégien, Building Instrument.
Ouais, je vous propose de fêter l'été et la musique avec un groupe pas comme les autres, un trio, Building Instrument, formé en 2008 à Bergen, en Norvège, avec comme ambition première de se frotter aux musiques électroniques, un projet vite abandonné au profit d'une exploration plus aventureuse de territoires aux frontières du jazz, de la pop et des musiques contemporaines. Et au cœur de cette musique libre, souvent improvisée, se love la voix de Marie Kvien Brunvoll, chanteuse de jazz et accessoirement la sœur de la compositrice Anne Brun. Sur les disques de Building Instrument, Marie Kvien Brunvoll chante en norvégien et même parfois dans un dialecte local, le dialecte de Molde, la petite ville dont elle est originaire. Une touche supplémentaire d'originalité qui complète le beau et étrange tableau qu'est le troisième album du groupe paru il y a quelques semaines, Mangalen Min.
Building Instrument, Mangalen Min sur Radio France Internationale. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site rfi.fr. Je vous dis à bientôt.